Aujourd'hui, je veux donc vous parler de notre Dieu. C'est donc une parole d'enseignement, mais plus que des mots pour toucher notre intelligence, pour nourrir notre connaissance, je voudrais à travers ce message pouvoir nourrir vos sentiments et votre amour pour notre Dieu. Jésus ressuscité se révéla à Marie, elle qui pleurait dans le tombeau, devant le tombeau, et à peine eut-elle compris que c'était Jésus qui lui parlait, qu'elle s'accrocha à lui, elle le saisit dans ses bras, elle lui dit « ne t'accroche pas à moi parce que il faut que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu ». Jésus met ici, dans cette parole, l'accent sur deux dimensions de la connaissance du Seigneur. Il nous parle du Seigneur comme étant d'un côté notre Père. Et là, c'est une dimension d'intimité, de proximité, Dieu notre Père. Mais il met l'accent aussi sur le Seigneur comme notre Dieu. Et appeler le Seigneur notre Dieu, c'est développer avec lui une relation de révérence, d'adoration et de foi. Nous devons connaître le Seigneur comme notre Père et nous devons aussi apprendre à le connaître comme notre Dieu. Mais concernant l'image du Père, nous avons quelques points de référence. Je ne sais pas s'ils sont tous parfaits dans votre expérience, mais enfin, nous pouvons nous imaginer ce qu'est un père. Mais concernant Dieu, comment appréhender Dieu ? Ça nous dépasse. Et avoir une relation avec celui qui est appelé Dieu, découvrir, connaître davantage Dieu, ce n'est pas par nos forces. C'est au-delà. Mais ça nécessite, premièrement, une révélation de Dieu. Et deuxièmement, en réponse à cette révélation, la foi. En guise d'introduction, je vous propose d'aller dans le livre de la Genèse pour lire ou relire certainement ce texte que nous connaissons bien dans Genèse 32, verset 24. Ce passage de Jacob à Péniel, où nous lisons que Jacob demeura seul, et alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et l'homme lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob lui répondit, « Oh, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et l'homme lui dit, « Mais... » Et il lui dit, Jacob lui dit, pardon, quel est ton nom ? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, mais pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Luttant avec l'ange, pour ne pas dire Dieu lui-même, à cette approche de l'aurore, Jacob lui demande, fais-moi connaître ton nom. Et l'autre de lui dire, pourquoi demandes-tu mon nom ? Dans la pensée orientale, connaître le nom d'une personne, c'est connaître la personne elle-même. Connaître le nom de Dieu, c'est connaître Dieu lui-même. Connaître le nom de Dieu, c'est connaître Dieu dans ses desseins, dans ses actions, dans ses qualités. Seulement, pour connaître le nom d'une personne, il est nécessaire d'avoir une certaine relation avec cette personne, même si elle est indirecte. Si personne de votre entourage n'a rencontré cette personne auparavant, eh bien, personne ne pourra vous dire qui est-il, qui il est. Or, il y a un souci. Dieu est inaccessible. Dieu est inaccessible pour l'homme. 1 Timothée chapitre 1er verset chapitre 6 verset 16, Paul écrit: il habite une lumière inaccessible. Comment connaître le nom de Dieu alors que nous n'avons pas les moyens de l'atteindre par nous-mêmes? L'apôtre Paul, prêchant à Athènes, dira à ces hommes philosophes et très mystiques: les hommes l'ont cherché à tâtons, sans qu'il soit loin de nous. Nous n'avons pas les moyens d'atteindre Dieu, de connaître par nous-mêmes le nom de Dieu. Heureusement, Dieu s'est révélé. Heureusement, Dieu est venu jusqu'à nous. Il s'est fait connaître aux hommes depuis le début. Et nous verrons notamment l'importance de la Genèse, l'importance de la création. La création nous montre l'étendue de la puissance et de la sagesse de Dieu. On dit de la création qu'elle est une révélation générale de Dieu, mais aussi limitée. La création nous dit qu'un Dieu existe, nous dit qu'il y a un Dieu, qu'il est puissant, qu'il est sage, mais elle ne nous dit pas qui il est. Elle nous dit qu'il existe, mais elle ne nous dit pas qui il est. Il est Dieu, et c'est son titre. Mais bien plus que la création, Dieu s'est révélé dans sa parole. Et le plus grand trésor que ce beau livre contient, c'est le nom de notre Dieu. Le nom de notre Dieu. Ce matin, je vous parlerai donc de deux choses. Je vous parlerai du titre du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, c'est son titre. Et je vous parlerai de son nom. En vous disant cette première chose, c'est que la connaissance du nom de Dieu est réservée à son peuple, est réservée aux siens. Donc, il est deux noms concernant le Seigneur, un titre, pardon, et un nom. Et ces choses nous sont révélées dans la Genèse. Vous le savez certainement, il y a deux récits de la création, Genèse 1 et Genèse 2. Deux récits complémentaires. Le premier récit de la Genèse, Genèse chapitre 1er, c'est ce que l'on peut appeler une approche universelle de la création. 6 jours. Et au bout de ces 6 jours, il y a la création de l'homme qui est porteur de l'image de Dieu. Et l'homme est l'aboutissement de la création. Dans ce récit de Genèse 1, vous pourrez y retourner et vous constaterez que l'homme n'est pas nommé. Dieu créa l'homme mâle et femelle. C'est tout ce qu'il est dit. Quant à la manière dont Dieu nous est présenté, il est appelé Dieu, c'est-à-dire Elohim. Ça, c'est la façon de présenter la création dans Genèse 1, universelle. Mais Genèse 2 a une autre approche. Une approche qu'on qualifie d'anthropocentrique, c'est-à-dire de centrée sur l'homme. Et Genèse 2, vous pourrez le vérifier, c'est évident, porte cette spécificité de nommer les choses. Dans Genèse 2, tout est nommé. Or, nommer une chose, nommer une personne, c'est donner corps, c'est donner une réalité à cette chose. Ainsi, dans Genèse 2, l'homme est nommé par le Seigneur Adam. Dans Genèse 2, la nature est nommée. Il y a le pays d'Éden, le pays d'Avila, il y a l'Éthiopie, il y a les 4 fleuves, le Pishon, le Guion, l'Idekel et l'Euphrate. L'homme a reçu mandat de la part de Dieu de nommer les animaux de la création. Et quand Dieu amène auprès d'Adam celle qu'il a tirée de son côté, il l'appelle d'abord Isha, femme, puis ensuite il l'appellera Ève, vie, au moment de la naissance de leurs enfants. Et dans Genèse chapitre 2, le Seigneur n'est plus simplement appelé Dieu, son titre, mais il est appelé par son nom, Yahvé Elohim. Et c'est là quelque chose de très intéressant. Dans son approche universaliste, Genèse 1 nous présente Dieu comme Elohim. Il est Dieu, c'est un titre générique. Il est Dieu, c'est ce qu'il est. Aujourd'hui, puisque nous sommes en plein milieu des élections, je vais utiliser cette image. Celui qui est à l'Élysée, c'est le président. C'est son titre, vous êtes d'accord ? Eh bien, Elohim, c'est le titre du Seigneur. Il est Dieu, c'est sa fonction. C'est son rôle, je vais dire, dans l'univers. Il est Elohim de toute la création, il est Elohim de toute créature. Tandis que Genèse 2, dans son approche anthropocentrique, Genèse 2 nomme Dieu, elle dit qu'il s'appelle Yahvé. Et Yahvé, c'est le nom de notre Seigneur. C'est qui il est, non pas ce qu'il est, mais qui il est. Et vous comprenez que la connaissance de qui il est beaucoup plus grande de la connaissance simple de ce qu'il est. Je reprends cette image. Jusqu'à ce soir, on sait que celui qui est président s'appelle Nicolas Sarkozy. Qu'on l'appelle le président, ma foi, c'est le président. Mais de fait, le savoir qui s'appelle par ce prénom et ce nom nous donne plus d'intimité. Ce n'est pas simplement ce qu'il est, mais qui il est. Eh bien, concernant le Seigneur, c'est pareil. Il y a Dieu, ce qu'il est, mais plus important, il y a Yahvé. Qui il est. Parlons quelques instants du nom d'Élohim, ou plutôt, pour être très juste ce matin, du titre d'Élohim. Ce n'est pas son nom, je vous l'ai dit, c'est son titre, ce qu'il est. Élohim était le titre par lequel beaucoup de peuples de l'époque, avant Moïse, appelaient Dieu. El, Eloah, Elohim, c'était un pluriel d'intensité. La connaissance d'Elohim, c'était une connaissance générale d'un Dieu créateur, mais dont, finalement dont on ne savait que peu de choses. Et les peuples disaient, il y a Elohim, il est Elohim, il est l'Elohim, il est Dieu. Voilà ce qu'il a fait, mais que savons-nous de lui ? Mais dès le début, Dieu a choisi des hommes, les patriarches, les premiers. Et avec eux, il a établi une relation. Et il a commencé à leur permettre de découvrir certaines choses sur lui. Ils ne connaissaient pas son nom. Ils le connaissaient par son titre. Mais ils ont compris ce que voulait dire ce titre. Au travers d'événements particuliers, Dieu a commencé à leur expliquer, à leur montrer ce qu'il est dans sa nature et dans sa puissance. Et découvrant certains aspects du rôle et des fonctions de Dieu, alors ils ont commencé à composer des noms. À Elohim, ils ont rajouté d'autres choses pour expliquer leur expérience, pour expliquer ce qu'ils ont commencé à comprendre, à connaître de Dieu. Et ces titres, nous les trouvons dans la Genèse, comme dans les livres de la Torah, et ils sont magnifiques, mais ils sont malgré tout très généraux. Le premier titre que l'on rencontre, c'est El Elyon. Qui appelait Dieu El Elyon ? Melchisédek. Nom, lui-même Melchisédek, personnage mystérieux, qui a donné à Dieu un nom assez mystérieux, El Elyon veut dire Dieu le Très-Haut. Eh bien, ça nous dit bien ce qu'il en était des relations entre Dieu et les hommes à cette époque-là. Pour les hommes, Dieu, il est haut, ce qui veut dire qu'il est très loin. Certes, il a tout créé, mais il est très loin. Il est très loin. Qui est-il ? C'est donc le premier titre composé que l'on retrouve dans la Genèse concernant la personne de Dieu. Et il nous montre que pour ces hommes et pour Melchisédek, le premier, Dieu était grand, il était majestueux, très haut, mais aussi très difficile d'accès, très lointain. Et les hommes ont donc continué, et le second nom que l'on rencontre dans les Écritures, dans Genèse 17, verset 1, c'est El Shaddai, le Tout-Puissant, le Suffisant. C'est Abraham qui a eu cette révélation du, du nom d'El Shaddai, lorsque Dieu, faisant alliance avec lui, va lui dire « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre ». Le nom d'El Shaddai est très important, ce titre, pardon. Parce que c'est un titre, El Shaddai, sur lequel Dieu va fonder son alliance avec Abraham. L'alliance que Dieu donne à Abraham est fondée sur cette révélation de la suffisance et de la toute-puissance de Dieu. Et ce titre, El Shaddai, ne veut pas dire simplement « crains-moi, adore-moi », mais quand Dieu se révèle à Abraham en lui disant « je m'appelle, je suis le Dieu Tout-Puissant El Shaddai », c'est pour lui dire « aie confiance en moi, appuie-toi sur moi, aie foi en moi ». Et il décrit donc une relation nouvelle entre Dieu et l'homme. Il n'est plus simplement El Elyon, le très grand, le majestueux, celui qui est au-dessus de tout, mais il devient El Shaddai, celui qui marche avec Abraham, le Tout-Puissant. D'autres titres se retrouvent dans les textes anciens. Plus tard, Abraham, lorsqu'il sera à Beersheba, appellera Dieu El Olam, le Dieu d'éternité. Dans le livre de l'Exode, il est appelé El Gana, le Dieu jaloux, parce qu'on ne peut servir qu'un Dieu. Le culte d'Élohim, le culte de Yahvé est exclusif. On ne peut pas servir d'autre Dieu que Yahvé Élohim. Puis dans Josué, il se fera appeler El Haï, le Dieu vivant, le Dieu réel. C'est ainsi que, au fur et à mesure, d'expérience en expérience, les hommes ont commencé à décrire qui est Elohim. Mais c'est son titre, ce qu'il est, ce qu'il fait. Mais Elohim avait quelque chose de plus grand encore à communiquer aux hommes. Il voulait leur communiquer son nom. Yahvé, le nom de l'Alliance. Ce nom, vous le savez, c'est à un homme de 80 ans qu'il va être donné. Cet homme, c'est Moïse. Et là, même le texte de l'Exode dit « au-delà du désert ». Dieu va se révéler à Moïse. Le buisson brûle. Et le buisson ne se consume pas. Et Moïse est attiré, il se détourne. Et s'approchant du buisson, la voix se fait entendre. « Je suis l'Élohim de ton père. Je suis le Dieu de ton père. » C'est ainsi que Dieu se présente à Moïse. Et Elohim dit à Moïse, je t'envoie vers tes frères, vers Pharaon. Et Moïse entend donc la voix d'Elohim. Il entend l'appel et la mission d'Elohim. Interpellé par la puissance, la majesté d'Elohim, Moïse lui adresse malgré tout cette parole. Il leur dit en quelque sorte, eh bien ok, je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Je viens au nom d'Elohim. Mais attends, attends. Peut-être que mes frères me demanderont, mais quel est le nom d'Élohim ? Seigneur, tu sais bien qu'en Égypte, il y a toutes sortes d'idoles qui portent des noms. Mais toi, quel est le tien ? Quel est ton nom ? Et c'est alors que Élohim va lui répondre, « Je suis celui qui est, je suis qui je suis. » Moïse exprimait à ce moment-là, comprenez-le bien, le besoin de connaître Dieu plus personnellement, plus substantiellement. Il ne voulait pas simplement entendre parler d'Élohim, il voulait quelque chose de plus. Il ne voulait pas d'une statue, il ne voulait pas d'un simulacre. Ce que Moïse désirait, c'était la connaissance du nom de Dieu, du nom d'Élohim. Et ce nom, c'est donc Yahvé, un nom sacré, un nom qui est composé en hébreu autour d'un jeu de mots, autour de « je suis », celui qui est, celui qui a la vie. Ce nom est en fait imprononçable parce qu'il est composé de quatre consonnes, c'est le fameux tétragramme, YHWH. Et ce nom est tellement sacré que la loi interdit de le prononcer en vain. Et ce nom est tellement sacré que les Juifs ne le prononcent pas et qu'ils lui substituent Adonai, mon Seigneur. Entre parenthèses, Adonai et non pas Jéhovah. Adonai. Yahvé, comprenez-le, c'est le nom d'Élohim. Le Seigneur est l'Élohim, mais son nom c'est Yahvé. Son nom, c'est Yahvé. Différents textes. Dans le Deutéronome, chapitre 5, verset 9, Dieu dit à Moïse, « Car moi, l'Éternel, Yahvé ton Élohim, Yahvé ton Élohim, je suis un Dieu jaloux, car l'Éternel ton Dieu, Yahvé Élohim. » Et si vous retenez ça, c'est déjà quelque chose d'important. De faire donc la différence entre un titre Élohim et un nom, Yahvé. Mais revenons à ce nom. Un cadeau précieux que Dieu a accordé à Moïse. Il lui a accordé non seulement la révélation de son nom, mais aussi la signification de son nom. Là, nous allons aborder des choses très profondes qui concernent la personne de Dieu. Et c'est pour ça que je vous disais que connaître le nom de Dieu, c'est commencer à connaître la personne de Dieu. C'est rentrer dans l'intimité de Dieu. Qui est Dieu ? Et quand Dieu se révèle sous le nom de Yahvé, celui qui est, il est en train de nous dire premièrement qu'il est autonome. Dieu n'a pas d'origine et il n'a de compte à rendre à personne. Il est celui qui est en tout temps. Avant le temps, après le temps, il est. Et c'est la première leçon que Moïse reçoit. La deuxième leçon, c'est la pleine suffisance de Dieu. En donnant ce nom de Yahvé, celui qui est, Dieu indique qu'il n'a besoin et ne dépend de personne. Dieu n'a besoin de personne. Je vais vous dire, il n'a même pas besoin de nous. Mais dans le cadre de l'alliance qu'il fait, il nous fait la grâce de participer à son royaume. Mais Dieu n'a pas besoin de nous. Il est celui qui est pleinement, totalement. C'est une grâce pour nous que d'être associés à lui. Enfin, ce nom contient une dernière notion très importante concernant la divinité, c'est la question d'éternité. Ce que Dieu est, il a toujours été, le sera toujours. Il est. Et pour nous, ça signifie ceci, c'est qu'on peut compter sur lui, il ne change pas. Immuable. Parfait, d'éternité en éternité. Jacques, chapitre 1er, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu est immuable, et particulièrement, Dieu est immuable dans son amour. Et Dieu est immuable dans sa volonté. La volonté, mon frère, ma sœur, de faire de toi son enfant, son héritier. Et de t'avoir à ses côtés dans l'éternité. Ainsi, avec Moïse, nous rentrons dans une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu. L'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, fondée sur la foi et concrétisée par la circoncision, avait été inaugurée par la révélation d'un titre divin. Ce qui unissait Dieu à Abraham, c'était donc ce nom, Elohim, El Shaddai exactement. Mais ce qui unit Dieu et Moïse, à travers Moïse Israël, c'est le nom de Yahvé. Une alliance fondée sur la révélation du nom de Yahvé. Et tout comme les patriarches l'ont fait pour Élohim, Israël, à travers sa marche avec Yahvé, va lui aussi former des noms autour de Yahvé. Et nous en trouvons certains déjà dans la Genèse, d'autres dans l'Exode. Le premier d'entre eux, c'est Yahvé Jiré. Rappelez-vous sur la montagne. Après que Dieu ait montré à Abraham le bélier, Alors Abraham a dit sur la montagne de l'Éternel, Dieu a pourvu. Dieu pourvoit toujours. L'Éternel pourvoit. Jéhovah Jiré, Yahvé Jiré. Il est celui qui te guérit. Yahvé Rapha. Exode 15, 26, lorsque le Seigneur sort Israël de l'Égypte. Au jour où Israël est attaqué par Amalek, Moïse dira, Yahvé Nissi, l'Éternel est ma bannière face à l'ennemi. Dans Lévitique 20, verset 8, le livre du tabernacle, le livre des sacrificateurs, Dieu est appelé l'Éternel Saint, Yahvé Hem Kadosh. Gédéon, foulant le blé dans son pressoir au milieu des combats et du tumulte, ayant rencontré son Seigneur, l'appellera Yahvé Shalom, Dieu ma paix, Dieu de paix. Et David, chantant la gloire du Seigneur, au psaume 23, l'appelle Yahvé Roi, l'Éternel est mon berger. Et encore les prophètes l'appelleront l'Éternel, notre justice. Et le dernier nom que nous retrouvons dans les Écritures d'Ancienne Alliance, c'est Yahvé Shama, qui veut dire l'Éternel présent. N'est-ce pas déjà une annonce d'Emmanuel ? Regardez le chemin. El Elyon, le Dieu très lointain. Et à la fin d'Ézéchiel, il est Yahvé Shama, le Dieu présent. Quel chemin spirituel, quelle marche, quelle découverte du Seigneur. Alors il existe encore d'autres noms, Yahvé Sebaoth, Yahvé Nakar, l'Éternel des armées, l'Éternel qui te frappe, on pourrait encore en développer. Nous pourrions nous arrêter sur chacun de ces noms, ils ont tellement à nous enseigner. Mais si vous êtes intéressé, je ne peux que vous renvoyer vers un livre magnifique du regretté David Wilkerson, « Que tes noms soient sanctifiés ». Ou, partant de la lecture du Notre Père, pasteur Wilkerson s'arrêtera sur cette parole, que ton nom soit sanctifié. Mais il écrit ceci, vous pouvez le lire avec moi, mon but en écrivant ce livre a été de parvenir à connaître les noms de Dieu avec mon cœur. Je désirais une révélation personnelle de ces noms, afin de m'approprier leur signification dans ma marche quotidienne avec lui. Au-delà d'une simple connaissance théologique, voyez-vous, chaque nom de Dieu révèle une des qualités qui définissent sa nature et son caractère. Et alors que je sondais les Écritures, j'ai découvert que Dieu a révélé ses noms à son peuple au fur et à mesure de ses besoins, et en particulier dans les moments difficiles. J'ai alors réalisé que c'est aussi la façon dont je désirais découvrir la nature de mon Seigneur, c'est-à-dire connaître les sentiments de son cœur envers nous, son peuple, dans nos moments les plus désespérés. Seigneur, notre Père, que tes noms soient sanctifiés. Tu es Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Tu es Yahvé Nissi, ma bannière. Tu es Yahvé Hem Kadosh, la sainteté. Tu es Yahvé Shalom, ma paix dans l'épreuve. Tu es Yahvé, ma justice. Tu es Yahvé, l'Éternel des armées. Seigneur, que tes noms soient sanctifiés. Accorde-moi une révélation de tes noms pour que tes noms deviennent une puissance dans ma vie. Dieu se révèle par ses noms. Et quand vous prierez cette prière du Notre Père, sondez donc les noms du Seigneur par l'Esprit. Amen. Ayant parlé de notre Dieu, Yahvé Elohim, je ne peux pas terminer ce message sans parler de Jésus-Christ. Car ce message serait incomplet si nous ne nous arrêtions pas un instant sur celui qui est la plus grande des révélations de Dieu, son Fils bien-aimé. Israël avait reçu exclusivement la connaissance du nom de notre Dieu. Yahvé était un don exclusif à Israël. Ce qui veut dire qu'Israël était le dépositaire de ce nom. Il devait rendre gloire à ce nom. Il devait servir ce nom. Et David n'avait ce cesse de dire que la maison qu'il voulait bâtir, le temple, était pour le nom du Seigneur. Et lors de l'inauguration du temple, Dieu dit, 1 Roi 9:3, « Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Le temple était donc le lieu où le nom de notre Dieu résidait. C'est vrai que peut-être à nous, occidentaux, c'est une notion qui nous échappe. Mais elle est pourtant très, très vivante, très vivace dans l'ancienne alliance et parmi le peuple juif. Malheureusement, nous le savons, les hommes n'ont pas su sanctifier ce nom comme il convenait. Et comme Ézéchiel le rapporte au chapitre 9 et chapitre 10 de son livre, Dieu a retiré son nom. Dieu a retiré son nom du temple. Alors Dieu a choisi un moyen plus grand encore pour faire habiter son nom parmi les siens. Et la lumière est venue au milieu de nous, elle demeure au milieu de nous. Et Dieu a choisi de manifester son nom au travers du seul qui le connaisse vraiment. Au travers de celui qui est dans le sein du Père de toute éternité, Dieu le Fils unique, Jésus. Et la mission de Jésus, c'était de nous faire connaître le nom du Seigneur. Et dans sa dernière prière, Jean 17, verset 6, Jésus dit, « Ô Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, à ceux que tu m'as donnés du milieu du monde. » Et plus loin encore, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Voilà ce que Jésus est venu nous enseigner. Le nom de notre Dieu, de notre Père. Jésus est donc celui qui nous fait connaître le nom de notre Dieu comme jamais aucun homme ne l'avait connu auparavant. Jésus est venu pour nous le faire connaître, mais bien plus. Jésus est celui qui porte le nom de Dieu. Si le temple construit par David et Salomon était le lieu pour faire habiter le nom de Dieu parmi les hommes. Mais nous savons que Jésus est le véritable temple. Et le nom de notre Dieu était en Jésus. Mais plus, comme le dit l'Épître aux Hébreux, Jésus est le reflet. Il est l'empreinte de la gloire de notre Dieu. Et à Philippe, lui posant la question, « Mais montre-nous le Père. » Jésus lui dit, « Mais Philippe, depuis tant de temps que je suis avec vous, vous n'avez pas encore compris. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et Jésus nous fait connaître le nom du Père et Jésus porte le nom du Père. Ce nom admirable, ce nom imprononçable, nom de notre Dieu, a été porté par Jésus. Et ce nom a accompagné Jésus. Le nom de Yahvé a accompagné Jésus tout au long de son ministère. Et le nom de Yahvé n'était pas absent de la croix. Oui, le nom parfait, le nom saint, le nom éternel était présent à la croix. Et les chefs juifs l'ont vu. Et quand ils ont vu le nom de Yahvé, ils ont dit, ah Pilate, n'écris pas ça. N'écris pas ça. Change ce que tu as écrit. Et Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Oui, ils avaient vu le nom d'y avait. Parce que sur ce panneau, cloué au-dessus de la tête de Jésus, là écrit en araméen, en hébreu, en latin, en grec, il y avait Yeshua, Anostri Umeler, à Yehudine. Jésus de Nazareth, roi Umeler, à Yehudine des Juifs. Rappelez-vous dans les peintures, sur le panneau, il y a ces lettres en latin I-N-R-I, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mais en araméen, les lettres qui apparaissent, dans l'autre sens, hein, vous le savez, sont Y, H, ou W et H. C'est le nom de Dieu. C'est le nom du Seigneur qui a été cloué au-dessus de la tête de Jésus sur la croix du Golgotha. Cela nous amène à comprendre que quiconque veut connaître véritablement le nom de Dieu ne le pourra que par le rendez-vous de la croix. Vous cherchez le nom de Dieu, vous cherchez qui est Dieu. Il n'y a qu'un rendez-vous, Golgotha. C'est là que Dieu se fait connaître aux hommes. C'est le seul lieu de révélation du nom le plus haut, le nom le plus puissant, le nom le plus saint, le nom éternel. Et là, sur la croix du Golgotha, ce lieu de rupture. Vous désirez connaître Dieu, vous désirez connaître son nom, alors tournez vos yeux vers le Christ crucifié. Et là, vous découvrirez Dieu. Pouvons-nous imaginer le nom le plus extraordinaire, Yahvé, être cloué à la croix sur le bois Moubi? Dieu n'était pas absent, il était là par son nom. En conclusion, je vous dirai ceci, le nom de Dieu ne renferme aucun pouvoir magique en lui-même comme les kabbalistes voudraient le croire. Ils auront beau faire tourner la Bible dans tous les sens, ils ne trouveront jamais ce nom qu'ils désirent parce que le seul lieu où on peut le trouver, c'est à Golgotha. Mais il existe une promesse de Dieu toute particulière pour ceux qui sont attachés à son nom. Dieu dit, psaume 91, verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Puisque tu connais le nom du Seigneur, puisque tu connais le nom de Yahvé, puisque pour toi ce nom, c'est le nom chéri d'entre tous les noms, c'est le nom dans lequel tu places ton espérance, ta foi, c'est le nom que tu crains au-dessus de tout autre nom, non pas parce que tu es apeuré, mais parce que c'est le nom très saint. C'est le nom que tu sanctifies dans ta vie chaque jour. C'est le nom que tu as le désir de connaître encore plus. À cause de cela, le Seigneur dit, « Puisque tu connais mon nom, puisque tu l'aimes, je te délivrerai, je te protégerai. » Et puis enfin, le livre des Proverbes déclare, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Proverbe 18:10, le nom de l'Éternel est une tour. Et le malheureux invoque le nom de l'Éternel, le Seigneur le délivre. Mes frères et sœurs, découvrez Dieu. Mais découvrez-le tel que les hommes ont appris à le découvrir, tel qu'il s'est révélé à eux. Découvrez Dieu comme votre Père. Dans cette intimité, cette relation, cette affection que nous avons, l'Esprit de Dieu qui nous pousse à dire « Abba Père ». Mais découvrez-le dans sa gloire, dans sa beauté, dans sa force, dans sa puissance. Seigneur, révèle-moi tes noms, afin que je puisse les sanctifier dans ma vie, afin que je puisse vivre qui tu es dans ma vie. Et la prochaine fois que vous prierez, selon le modèle de prière que nous donne Jésus, alors vous pourrez dire, Seigneur, enseigne-moi ton nom. Je veux le sanctifier dans ma vie. Seigneur, je te loue parce que pour nous, tu n'es pas simplement Elohim. Bien sûr, tu l'es. Et tu es le seul Elohim. Mais nous avons découvert quelque chose tellement plus merveilleux. Nous avons découvert le beau nom de Yahvé. Seigneur, ce nom a été confié à Moïse et au peuple hébreu. Et tu nous as fait la grâce à nous, gens des nations, de le recevoir et de le garder dans nos cœurs. Mais Seigneur, ce que nous comprenons aussi, c'est que la connaissance de ton nom, nous l'avons eue par Jésus. Lui est le seul qui soit capable de porter ton nom. Lui est le seul qui soit digne de prononcer ton nom. Et Seigneur, mon cœur est tellement touché de constater que ton nom n'était pas absent de la croix. Pourrais-je mesurer cela ? Seigneur, ce que je te demande pour chacun d'entre nous, c'est de nous accorder une meilleure compréhension, de nouvelles révélations concernant ton nom. Apprends-nous à connaître ton nom. Comme ces héros de la foi, comme ces pères de la foi l'ont appris eux-mêmes, afin que nous puissions sanctifier ton nom. Seigneur, révèle-toi encore dans nos vies. Merci, mon Dieu. Merci, Yahvé. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse encore se révéler dans vos vies. Gloire à Dieu.